sa parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile. Ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit le chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Nous pouvons reprendre place. Cinquième parole de Jésus, j'ai soif. Jean chapitre 19, les versets 28 au verset 30. Après cela, Jésus savait que maintenant, tout est achevé. Et pour que l'Écriture soit accomplie, il dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent une éponge dans du vinaigre, la fixèrent sur une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit ce vin aigre, c'était la veille de la Pâque, et il ne fallait pas que le corps reste sur les croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat-là était particulièrement important. Les autorités juives demandèrent donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever leur corps des croix. Les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné mis en croix, en même temps que Jésus, puis du second. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent donc pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Seigneur, ta parole est vérité. Permets qu'elle soit une lampe pour nos vies. Et laisse que par elle, nous osons tous ensemble témoigner de ta grâce. Parle, Seigneur. Tes filles et tes fils entendent. Parle au Christ Jésus. Amen. Je disais cinquième parole. J'ai soif. Frères et sœurs, cette brève parole du Christ à la croix exprime en elle seule tout le sérieux et la réalité de l'humanité de Jésus. À travers le Christ, Dieu s'est vraiment abaissé pour nous rejoindre dans nos insuffisances, nous rejoindre dans notre finitude. Et on découvre alors un Dieu dépouillé. Un Dieu dépouillé à l'idée, à l'opposé de l'idée du divin qui a toujours été la norme. Il suffit de demander à un enfant de peindre un peu Dieu dans son imaginaire et nous serons surpris de voir que très souvent, c'est un monsieur imposant, assis dans les nuages, Et pour amener le folklore un peu plus loin, avec une longue barbe blanche et une couronne sur la tête. Combien de fois m'est-il arrivé que quelqu'un me dise, vous savez, moi, je ne crois pas en Dieu. Et comme je suis un peu blagueur, je réponds toujours, moi non plus. Parce que la vraie question, c'est celle de savoir de quel Dieu parlons-nous. Si c'est du tout puissant, fort, qui presque joue avec nos vies comme des pièces d'échecs dans un échiquier, ce Dieu-là, je n'y crois pas. Si c'est celui d'un Dieu qui décide de ce que je dois faire, de qui je devrais être, ce Dieu-là, je n'y crois pas non plus. L'image que l'on découvre de Dieu en Jésus est à l'opposé de l'idée qui a toujours été la norme. Et quoi de plus efficace pour sauver une humanité qui se perd que de venir jusqu'à elle en assumant ses limites ? Cela peut sembler contradictoire, mais à la croix se joue un événement, puisque la croix devient le lieu où se manifeste la toute-puissance de Dieu. Une toute-puissance qui est une toute-puissance d'amour, qui, pour utiliser les termes de Karl Barth, est une non-puissance. Parce qu'un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui est capable de s'abaisser jusqu'à la condition humaine. C'est un Dieu qui est capable de se faire infiniment grand et infiniment petit. Un Dieu qui est capable de rejoindre l'humain dans son humanité profonde. Et les récits de la souffrance et de la mort de Jésus sont d'abord et avant tout des récits d'un homme qui a été arrêté. Un homme qui a été torturé, un homme qui a été fouetté, déshabillé, humilié, cloué sur une croix jusqu'à en mourir. Et tout cela de façon la plus injuste, puisque le jeune homme de Nazareth a aimé son prochain, puisque ce jeune homme de Nazareth a prêché l'amour et il a fait du bien autour de lui en soignant les malades, en réinsérant les personnes marginalisées et en rappelant ce qui est l'essentiel de la vie d'un croyant. Il a été condamné pour des motifs religieux, alors qu'il tentait juste de faire avancer les choses au sein d'un judaïsme qui cherchait sa place dans une société sous l'occupation étrangère. Cet enfant de la bienheureuse Marie n'était pas un jeune innocent, il était presque un anticonformiste. Mais il essayait d'aller aux marges de la société pour rejoindre celles et ceux qui étaient exclus. Cet innocent s'est vu dépouillé, maltraité jusqu'à la mort la plus ignoble. Et pour nous chrétiens, au-delà de la mort injuste d'un innocent, il s'agit aussi, pour utiliser le terme de Nietzsche, de la mort de Dieu. La mort par laquelle nous sommes sauvés. Et j'aime la formule qu'utilise souvent un spécialiste francophone du Nouveau Testament. Il appelle Jésus le poète du salut. Poète au sens premier du terme, car le mot poète vient du grec, poème, poio, qui veut dire faire. Faire. Jésus est donc celui qui fait le salut. Mais qu'est-ce qu'il fait réellement ? Et qu'est-ce qu'il faut entendre quand on dit « la mort du Christ à la croix nous sauve » ? Cette question légitime, dont la réponse n'est pas si évidente, peut avoir plusieurs interprétations. Ce que je nous propose ce matin, c'est d'abord d'exclure le fait de penser que la mort de Jésus exprime la soif de sang d'un Dieu exigeant qui ne peut pas pardonner l'humain sans avoir tué un autre. Exclure l'idée de ce Dieu sanguinaire, presque ce Dieu pervers, qui prend le plaisir dans la mort d'un autre pour en sauver un autre. Le salut n'est pas non plus la fuite de la punition divine, du feu éternel, qui s'abattrait sur l'humanité à cause des petites fautes morales du quotidien. Je disais il y a 2 semaines à Utz qu'on ne vient pas à l'église pour aller au paradis. Et je disais hier au culte du Seder qu'on n'a pas besoin d'être croyant pour être pratiquant. Ça peut paraître paradoxal. Hein. Et pourtant, j'ai lu cette belle formule d'un politicien français qui est décédé il y a quelques jours, Lionel Jospin, qui se définissait comme étant un protestant athée. Et je trouve ça beau. On peut en discuter à la fin du culte parce que la prédication doit être courte. Non, mourir pour nous à la croix n'est pas le prix à payer pour une punition qui devrait s'abattre sur nous. Car cette conception du salut, de mon point de vue, passe à côté du message premier de l'Évangile, qui est celle d'établir une relation entre l'humain et le divin. Car c'est bien par la foi que nous accueillons l'avènement de la croix comme une preuve d'abord de l'amour divin, une preuve de la grâce inconditionnelle de Dieu. Le Christ, et j'ai commencé par lire ce texte au début de ce culte, a tant aimé l'humanité qu'il a refusé de renoncer à son message du salut, quitte à payer le prix ultime, sa propre vie. Oui, c'est bien par la foi qu'un événement aussi dramatique que la mort d'un être humain peut être relu afin de marquer le début d'une nouvelle ère, une ère qui met fin à la culpabilité permanente et au sacrifice injuste des animaux. C'est bien par la foi que cet événement de Jésus devient porteur du salut pour les croyants. En dehors du mystère du salut, la croix est aussi un enseignement pour nous aujourd'hui. Et il y a sans doute plusieurs leçons à tirer pour notre quotidien. Je me limiterai ce matin à ce que la parole « J'ai soif » peut nous enseigner. La croix, vide pour les protestants calvinistes réformés, elle manifeste un manque. Le Christ à la croix cherche à s'hydrater, mais tout ce qu'il reçoit, c'est ce qu'on a traduit par vinaigre. C'est en réalité une boisson courante et peu coûteuse des soldats romains à l'époque. Ce n'est pas ce qu'il y a d'idéal pour une hydratation. Et pourtant, après la mort de Jésus, un des soldats lui perce le côté et mystérieusement, il n'en sortit pas que du sang, mais aussi, nous dit l'évangéliste Jean, de l'eau. La boisson idéale pour l'hydratation. En d'autres termes, ce que Jésus cherchait désespérément autour de lui, il en avait déjà en lui. Cette parole de Jésus à la croix est peut-être symboliquement un enseignement sur les ressources intérieures que chacun et chacune de nous possède déjà. Ressources intérieures que nous avons déjà et qui peut venir nous ressourcer pour les temps de joie aussi bien que pour les temps de peine. Car voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, il nous arrive parfois de chercher autour de nous ce que nous pouvons trouver en nous. Et pourtant, c'est justement en nous que nous devons faire ce pas de côté pour puiser ce que le Seigneur a mis au cœur de nos vies. Je finirai ma prédication par cette histoire hassidique. Un jour, les disciples d'un maître hassidique lui posèrent la question « Maître, où se trouve Dieu ?» Et le maître hassidique, silencieux pendant 2 minutes, ensuite leva ses yeux, fixa ses disciples et leur dit « Dans votre cœur. » Dieu se trouve toujours dans votre cœur. Il suffit quelquefois de garder silence, se plonger au cœur de soi-même pour se rendre compte qu'il est là. Silencieux, discret, mais présent. Puis, ayant gardé silence encore quelques instants, leva les yeux et leur dit « Ce Dieu qui vit dans votre cœur se donne dans la parole, dans le geste, dans le regard qu'on offre à un prochain. Puisque Dieu n'est pas destiné à être enfermé dans nos cœurs, mais partir de nos cœurs pour être offert à d'autres. À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.